Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30. Ce journal vous est présenté par Laurent Grolls. Bonjour Laurent.
Bonjour Florine, voici les titres de ce journal. Un nouveau chantier en vue à Liège. Un piétonnier va voir le jour entre le boulevard d'Abrois et la place du 20 août. Adrien Takoufot détaillera le projet dans cette édition. C'est la journée internationale du cancer de l'enfant, l'occasion pour Romane de mettre en lumière en plateau l'ASBL aide aux enfants cancéreux. Hier, c'était la Saint-Valentin pour Écolo. Ce journal reviendra sur une action menée par le parti pour remercier les usagers des transports en commun. Et enfin, le ciné-club du Nickelodeon lance sa revue Hors Champ. Nous aurons les explications d'Hugo Budin au micro de Florine Berger. Le piétonnier du centre-ville de Liège va s'agrandir. Des travaux d'aménagement débuteront l'année prochaine et s'achèveront en principe en 2026. Il est question d'améliorer la mobilité et d'offrir plus d'espace de détente aux habitants. Un reportage d'Adrien Takoufot.
Selon les plans des travaux, le piétonnier du centre-ville de Liège va s'étendre à la place Cathédrale, place Xavier Nugent, place Saint-Paul et autour de l'Opéra. Une partie de la place du 20 août et de la place Coquerel, autour du bâtiment central de l'université, est aussi concernée par cette piétonnisation. Les précisions de l'échevin des travaux, Romain Léonard.
L'objectif est effectivement de piétonniser totalement la place Cathédrale. Le transit entre le boulevard d'Avrois et la place du 20 août ne sera plus possible. C'est la seule solution pour rendre ces espaces apaisés. Les parkings restent bien sûr accessibles, tant ceux de la place Saint-Paul que de la place Cathédrale, bien sûr.
L'arrivée du tram à Liège a servi de motivation pour étendre le piétonnier du centre-ville et faire disparaître les véhicules. L'objectif est de créer des espaces publics confortables et exhiber la totalité de ces lieux.
Le centre serait un jardin de quartier avec effectivement des espaces verts, des espaces de pelouse et du mobilier urbain pour permettre aux citoyens de s'y reposer, d'y bouquiner, aux enfants d'y jouer.
La vie des habitants compte dans ces travaux. La ville de Liège ouvrira une enquête en ligne. Les citoyens s'y prononceront sur ce qu'ils veulent voir changer et ce qu'ils souhaitent conserver.
Avez-vous fêté la Saint-Valentin hier? Non, ce n'est pas une erreur. Depuis une dizaine d'années maintenant, Écolo déclare sa flamme aux usagers des transports en commun. À Liège-Guimin, les navetteurs ont reçu un chocolat en remerciement d'une mobilité douce. Caroline Salle, membre du parti et conseillère communale Vert Ardent, interrogée par Florine Berger, est sur le point, elle aussi, de monter dans le train.
C'est notre manière de déclarer notre flamme à toutes les personnes qui prennent les transports en commun. Nous étions à Liège, mais nous étions aussi à Namur, à Finet, à Verviers, à Herstal, etc. Nous voulions vraiment découvrir un maximum de gares. Ça décroche toujours un sourire aux gens et puis ils sont toujours très contents que de recevoir en fait des remerciements une fois par an qu'ils ne s'attendent pas. Les transports en commun, c'est une manière de diminuer les embouteillages, d'améliorer la qualité de l'air. Et donc, c'est en cela que nous soutenons, nous promouvons. Maintenant, on sait aussi que c'est avec un train, qui est à l'heure, efficace, dans lequel on peut s'asseoir confortablement. C'est ça qui attirera vraiment les navetteurs. Et donc, c'est aussi ça, la politique que prône Écolo et que nous rappelons lors de la Saint-Valentin.
Et ce mercredi 15 février marque la journée internationale du cancer de l'enfant. Romane, tu t'es entretenue avec la SBL AEC pour aide aux enfants cancéreux, une des nombreuses ASBL en région liégeoise qui offre une aide en hôpital ou hors hôpital aux enfants cancéreux et à leurs familles.
Oui Laurent, alors concrètement, la SBL travaille avec une éducatrice, fournit du matériel, des jouets. Elle vient aussi en hôpital pour fêter avec les enfants la Saint-Nicolas ou les anniversaires par exemple. Mais AEC, c'est aussi de petites attentions extrêmement importantes pour les patients. Une esthéticienne vient apprendre aux personnes qui ont perdu leurs cheveux à se maquiller, par exemple. Et au-delà de la chaleur humaine, une aide financière aussi aux familles. Aide familiale, remboursement de traitements, vaccins. Françoise Claes est secrétaire de l'ASBL et fait partie de la petite équipe entièrement bénévole.
Tout n'est pas financé comme on pourrait le croire. Bien sûr, il y a les mutuelles, les assurances, payent pas mal le traitement, mais il y a des tas de choses qui ne sont pas payées, on ne se rend pas compte. Même au niveau de l'enseignement, on intervient pour payer les trajets des instituteurs parce qu'ils vont à domicile, mais c'est payant. Il y a aussi tout le transport vers l'hôpital qui est payant. Donc, s'ils n'ont pas de voiture et qu'il faut un système pour on dit des bénévoles qui les conduisent à l'hôpital, mais c'est payant, quoi. Donc, on intervient pour tout ça aussi.
Sans compter que toute l'organisation familiale se retrouve bouleversée, un des deux parents, souvent la maman, doit s'arrêter de travailler, d'où l'importance de l'aide familiale proposée par AEC. Mais ce n'est pas facile pour la SBL d'aider pleinement, puisqu'elle repose entièrement sur des donateurs, des services clubs comme le Rotary, ou aussi des soirées, des marches et des ventes de vin. La SBL est parfois recommandée par des notaires pour les héritages, ce qui constitue alors des montants plus importants qui permettent de faire pas mal de choses.
On vient d'acheter une maison qu'on a transformée en deux appartements tout près du CHU de Liège pour accueillir les familles quand l'enfant est en greffe de moelle. Si ils habitent trop loin, parce qu'ils viennent parfois de partout, hein, de Bouillon, d'Inan, ils peuvent loger là pendant que l'enfant est à l'hôpital.
AEC organise aussi des voyages avec parents, frères et sœurs. Cette année, ils se sont rendus à Londres avec les adolescents. Et ce samedi, les plus petits, assisteront au spectacle de Disney on Ice, l'occasion aussi de faire tomber la barrière médicale.
Le jour où ils vont à Disney, c'est vraiment qu'ils sont au bout de leur traitement et c'est chouette, quoi. On part tous en groupe dans le même car, mais dans le parc, on se sépare. Parce qu'on en est quand même une septantaine. Bon, ils peuvent nous sonner à tout moment s'il y a un souci, s'il y a un problème. Et tout est payé par la SBL, aussi bien les trajets que la nourriture, les repas midi, soir, déjeuner. Je pense que ça leur fait une bulle d'oxygène magnifique. Ils sont en sécurité, ils sont encadrés. Et pour le personnel, c'est magnifique aussi parce qu'on voit les enfants sous un autre angle. On n'est pas seulement l'infirmière et le médecin face à l'enfant, on est autre chose quand on est à Disney, quoi. Une bulle d'oxygène pour les deux, je dirais.
Et à titre d'information, si vous souhaitez contribuer à de futures bulles d'air, tout don supérieur à 40 euros versé à la SBL AEC vous donne droit à une déduction fiscale aux contributions.
Merci Romane. Et du côté de l'université, le ciné-club Nickelodeon lance sa revue. Le mensuel hors-champ fait la promotion des projections. L'objectif, redynamiser le ciné-club. Chaque mois, un nouveau thème et différents films. Et pour commencer, rien de tel qu'aborder les premiers films des réalisateurs. Hugo Budin, membre du Nickelodeon, au micro de Florine Berger.
Dans la Gazette, on retrouve un édito, une introduction au cycle et une introduction au film, une analyse d'un film qui a été projeté le cycle dernier, et de nombreux topics sur des sujets en bref, mais qui ont toujours quand même un rapport avec le thème du cycle. Il y a des jeux et il y a de temps en temps une petite critique, et si ce n'est pas une petite critique, une introduction à une projection spéciale. C'est une initiative d'étudiants, ça permet à tout le monde de s'exprimer et d'écrire un petit peu sur ce qu'il aime, sur ce qu'il passionne. En dehors du ciné-club, c'est aussi, je pense, une très bonne opportunité de voir un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on trouve des subsides, comment est-ce qu'on va mettre en page, comment est-ce qu'on écrit.
Pour l'instant, uniquement numérique, la Gazette pourrait voir le jour en papier dès le prochain numéro. L'équipe du Nickelodeon recherche pour ça des sponsors à vie aux amateurs.
Ça ressemble à un running gag de mauvais goût, mais c'est bel et bien la réalité. La fin des travaux du tram a à nouveau été retardée.
Oui, Florine, on l'apprenait ce matin dans les colonnes du journal La Meuse. Colas, l'entreprise qui s'occupe du chantier du tram, a annoncé reporter la fin des travaux prévus initialement pour août 2023. Désormais, le chantier devrait s'étirer jusqu'à la fin d'année, alors que la mise en service est prévue pour avril 2024. Une nouvelle qui ne va pas ravir les Liégeois et surtout les commerçants, mis à rude épreuve depuis 2020.
Et la Belgique est accusée d'exporter dans le monde des pesticides toxiques.
6 ONG dénoncent notre pays d'être l'un des plus gros exportateurs de pesticides toxiques. Parmi elles, on retrouve SOS Faim, Entraide ou encore Île de Paix. Selon ces organisations, entre 2013 et 2020, la Belgique aurait exporté 16 substances actives interdites au sein de l'Union européenne pour un total de 50 000 tonnes de produits en direction d'une septantaine de pays tiers. Les 6 ONG expliquent que ces produits sont reconnus pour leurs effets cancérogènes, mutagène et toxique pour la reproduction.
Vous êtes toujours sur 48FM, il est 9h39 et tout de suite on passe à l'actualité internationale.
Plus de 40 000 morts, le bilan s'alourdit encore en Turquie et en Syrie suite aux tremblements de terre qui ont frappé ces deux pays la semaine dernière, Luisa.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan l'a annoncé ce mardi, le nombre de victimes s'élève à 35 418 et ça, rien qu'en Turquie. En Syrie, le dernier bilan comptabilise pas moins de 5 900 personnes et ce bilan provisoire pourrait encore s'alourdir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé ce matin un appel d'urgence aux dons de 400 millions de dollars. Ces donations aideront les populations victimes de ce séisme en Syrie.
Et ce lundi, dans un parc parisien, le bassin d'une femme a été retrouvé dans un sac poubelle.
Oui, Laurent, cette macabre découverte a eu lieu dans le parc Butte-Chaumont du 19e arrondissement de la ville. Le parc a été évacué et fermé au public. Un important dispositif a été déployé par la brigade criminelle. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour assassinat. Hier, d'autres parties du corps ont été retrouvées, dont la tête de la jeune femme. L'enquête continue. Reste à préciser à quand remonte la mort de la victime, dont l'identification est toujours en cours.
Et en sport, Matt Rombeau, 15 ans, est devenu pour la deuxième fois consécutive champion d'Europe ce week-end à Chypre.
Oui, Laurent, il est actuellement premier mondial dans la catégorie des moins de 52 kilos. Ce jeune prodige du karaté s'entraîne au Karaté Club Wallonie à Chennai avec Lucas Costa, un grand champion de la discipline en poids lourd. Malgré son jeune âge, Matt Rombeau n'en est pas à son premier titre. Chez les jeunes, il a été champion du monde de Shotokan en Pologne en 2016, champion d'Europe en Roumanie en 2017 et déjà 4 fois champion d'Espagne.
Un avenir radieux pour le karaté belge et en handball féminin, eux peinent à performer.
En effet, les joueuses germanophones se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de Belgique face à Sprimont, un match à sens unique qui a vu les Eupénoises remporter la rencontre sur le score de 37 à 23.
Et hier soir, Luisa, c'était les deux premiers huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Ça faisait 4 mois qu'on n'avait plus entendu la musique de la Ligue des Champions et les fans de foot ont été servis. Le PSG s'est incliné face au Bayern de Munich. 1-0 pour le club allemand qui prend une belle option sur la qualification en quart, malgré le retour de Kylian Mbappé en deuxième mi-temps. Le Français a pourtant égalisé à la 82e minute, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Le second match de la soirée opposait l'AC Milan de Charles de Ketelaar et de Salmakers au Tottenham d'Antonio Conte. Un match qui s'est soldé par la victoire des Milanais grâce à un but précoce de Brahim Diaz à la 7e minute. Ce soir, le club de Bruges recevra Benfica, l'occasion pour les Noirs et Bleus de renouer avec le succès malgré leur mauvaise passe en championnat.
Merci Luisa et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. On vous retrouve demain, même heure, même fréquence et on vous souhaite une excellente journée sur 48FM.